pourquoi signer puisque tout ce qui est rond est Volman ? Pourquoi signer puisque le Volmansland est le territoire où vous ne trouverez personne sinon Volman ? Personne est ici de trop. Volman n'est même plus une signature, voire une marque. Il signait l'envers d'étoiles et d'autres choses. W, c'est un signe qui, quelque part, en quelque temps, signifiait « Viva la libertà ». La question juive. Nul ne doit être inquiété. Le commentaire est de tradition juif, Talmud, Zohar, Kabbal. Michel Valenzi en a prévu de quoi écrire ses propres commentaires aux inhumations. Si un temps Volman a étudié le yiddish et non l'hébreu, le théologique n'avait pas chez lui l'importance qu'on lui trouve chez un Kafka ou un Benjamin. Cependant, le signifiant a le poids que l'on sait. Je peux de la sorte lire ainsi Gilles J. Volman. Gilles représente J pour Volman. De ce « je » à sa manière, consonne séparée, « J », Volman aura refait ce qu'on lit aujourd'hui à l'issue des inhumations, « Joseph, me voilà. » Hein, « Joseph, me voilà, prémonitoire. » Je tiens que nous pouvons lire Kafka sans la théologie, de même Benjamin, je veux dire sans parti pris théologique. Volman jouait le jeu, double doute. Il arrive à Lacan de parler Volman. Je pense ou je ne suis pas. Je suis ou je ne pense pas. Le doute cartésien doublé. Le poète retranché, mal armé.
En voilà des positions.
Oui. Ce sont les miennes. De longue date acquise et fortifiée, de nonnette.
La mésange.
Loué soit Dieu qui m'a ôté la responsabilité de ce garçon-là. C'est la formule de bénédiction à l'occasion de la bar mitzvah. Tu es resté à l'origine, l'origine est le but. Karl Kraus, Walter Benjamin, Gilles J. Volman. Nombreux sont les noms du père qui apparaissent comme l'étincelle sur le charbon et s'évanouissent dans l'ombre du néant laissant. Interrompu. Au sujet la coupure. La lecture de Gershom Scholem est nécessaire. Volman va séparer la séparation de tout. Tout va-t-il en être rejointé ? Le bonheur consiste-t-il, critiquer la séparation, soit séparer la séparation, à restaurer et réparer l'être cassé dans la brisure des vases ? Ah, soissons ! Permettez à quelqu'un que la coupure a sauvé de prendre le parti opposé, celui qui lui permet d'assurer que le déchirant ne laisse pas de ruine. Pourquoi, m'essuie-glace, cette rage quand ça ne colle pas ? Ça ne colle pas ? C'est que ça ne doit pas coller. Un coup de dé, l'un n'exclut jamais, n'abolira le hasard, pas l'autre. Les mots sont inséparables. Laissez le mot mot, seul vous le verrez gémir. Plasici. Les mots sont inséparables. Laissez le mot mot, seul vous le verrez gémir. Placez-y le scalpel ou le couteau du boucher de Chuang Tzu, c'est encore pire. C'est le bâillonnet qu'on étouffe dans les caves un peu partout. Marteau le momo. Ce passage, marteau le momo, ça fait plutôt penser à Dufresne, un poète de la même bande lettriste qu'à Volman. Où veux-je en venir ? Est-il temps d'annoncer que je n'ai pas de programme ? Je dis ça à Radio Grenouille, n'est-ce pas ? Nuitamment. Chers auditeurs, vous et moi, nuitamment, n'avons pas de programme. Parce qu'il y a des valeurs sans programme, sans moellons dont on construit des louvres ou des tombeaux, parce qu'il y a des arbres morts, parce que celui qui bâtit un louvre veut y loger un roi. Il arrive même qu'on expulse l'architecte. Souvenez-vous du Bernin. Malherbe n'a pas été expulsé, et pour cause. Ponge en dit long là-dessus, page 185 de son « Pour un Malherbe ». Je vous conseille, entre nous soit dit, ce livre. Puis il exalte ses valeurs, dresse la colonne où vivre stylite en attendant le Louvre auquel il pourrait s'adresser. Ce fut Beaubourg. Comme c'est ennuyant, un père qui ne veut que des fils. Pensez, va falloir faire de la politique. Donc, selon nos docteurs, la politique n'exclurait pas l'art. Quand l'un se consacrerait aux politiques, je pèse mes mots là, jusqu'aux articles, l'autre poursuivrait son bonhomme de chemin, qui n'est plus de traverse depuis qu'il fut fort emprunté. Je pèse. L'un, politique. Bien que certaines activités artistiques soient plus notoirement frappées à mort que d'autres, nous pensons que l'accrochage de tableaux dans une galerie est une survivance aussi forcément inintéressante qu'un livre de poèmes. Toute utilisation du cadre actuel du commerce intellectuel rend du terrain au confusionnisme idéologique, et cela jusque parmi nous. Mais d'autre part, nous ne pouvons rien faire sans tenir compte au départ de ce cadre momentané. Guy Ernest Debord, Potlatch numéro 28, 22 mai 1957. L'autre, artiste.
Motus. Je me suis toujours méfié des mots comme de la mésilar. Yves que la peste se déguise à l'or des goises. Ensuite je me mords les doigts qui ont tenu la plume. Mais il est trop tard et 20 ans après les experts me crache à la gueule les phras, ceux que j'ai construites en jour, ou en j'ai perdu des amis pour un mot et des heures pour un autre. Je préfère le cri osé, cri il ne laisse pas de traces, il est dangereux. J'ai crié vive là, abat le libérez-les, et je recommencerai.
Je vous prends mes essuie-glaces à témoin de mon embarras. C'est à vouloir pour un Volman que se propose l'oratoire à colonne pour un Malherbe. Il n'y a chez Volman aucun art qui se manifeste en fût, colonne et péristyle. Je veux dire ici que l'un n'est pas moins masqué que l'autre. Je pèse de même les majuscules. J'aurais aimé pouvoir m'élancer au-delà de ces bribes, retrouver l'ampleur des sermons de Bossuet, voir les pages carrées de Ponge. Force m'est d'éprouver que le sujet ne s'y prête pas. Ce sujet-là, Volman. Car un Herval qui anticipait l'actif écroulement du concept qui ne se maintient plus que falsifié m'a permis un tombeau. Au point qu'un beaubourg, par exemple si pertinemment choisi, ne sait que faire d'une toile Volman à l'occasion de je ne sais plus quelle exposition, et que cette toile lui impose un cartel de conneries plus grosses les unes que les autres. Un cartel, n'est-ce pas, qui la fasse entrer dans le rang. Malherbe, comme le souligne parfaitement Ponge, était du rang, était d'épée. Les temps ont changé.
Ainsi, vous seriez-vous déplacé d'un cran, Ponge faisant l'autre et Volman l'un de votre mise en place?
Dois-je répondre?
Certainement.
Que dis-tu? Tu estimes qu'il me faut... Tu veux que je m'attaque à cet homme? Que face à vous, je lui inflige sa punition?
Alors, tu as ce type de relation avec Volman, fils-père, alors que Volman, tu commences par dire qu'il était sur une ligne pas de père que des fils.
Oui, plus de père, rien que des fils. Donc, Et tout en soulignant d'ailleurs
c'est un peu une trahison de Volman, alors, de vouloir tenir cette relation père-fils avec lui.
Pourquoi pas, oui, effectivement, pourquoi pas le voir. Oui, mais pourquoi pas le voir sous cet angle, effectivement, et qu'il y a une part de trahison, peut-être. Moi, je ne le vis pas vraiment comme ça, parce que la phrase de Volman, c'est exactement celle que j'ai retrouvée. Et maintenant, il dit « Quelqu'un dit quelque part que... plus de père, rien que des fils. » Mais c'était comme beaucoup de phrases que prononçait Gilles, c'était des phrases qui avaient une sorte de rayonnement. C'est-à-dire qu'il était sur une espèce de pointe, n'est-ce pas? Et que si on faisait peser tel mot plutôt que tel autre, elle pouvait verser dans un sens ou dans un autre. Hein, comme une balance, mais comme là c'était un espace, ça peut aller aussi en avant et en arrière. Il y a plein de sens possibles. Il faut justement aussi le prendre à la lettre, et la lettre, c'est quelque chose qui vibre. C'est quelque chose qui est vibrant et quelque chose qu'on ne peut pas fixer comme on fixe un papillon sur un mur. Voilà, ça c'est pas possible. La lettre, c'est quelque chose qui est vibrant. Le signifiant, comme disait Jacques Lacan, c'est quelque chose qui est vibrant. Bon. Qui est disponible pour le sens, mais pas un sens fixe. Et par exemple, ce « Ah, plus de père, rien que des fils », ça voulait dire qu'à une certaine période, il y avait énormément de gens qui récusaient tout le passé, qui de l'histoire voulaient faire, n'est-ce pas,
table rase.
Bon, ces gens-là n'avaient plus aucun père, parce qu'ils estimaient que leurs pères, les avaient trahis. Et oui, quand on est envoyé dans les tranchées en 14-18 et qu'on y meurt par dizaines de milliers, dans les poux, le typhus, les gaz et toutes ces horreurs, eh bien, on a de quoi se tourner vers ses pères en disant « Écoutez, mon cher papa, je vous renie. » Voilà. Bon, ensuite, on peut entendre cette phrase-là d'une autre façon, sur un plan, disons... cette fois qui va devenir un peu plus ironique, est-ce que c'est le mot, je ne sais pas, en tout cas un peu grinçant, c'est de tous ces artistes qui prétendent peut-être encore, je ne sais pas, je ne les fréquente guère, qu'ils ont fait la découverte essentielle, ils font du neuf, ils ne cessent de faire du neuf, et que donc ils n'ont absolument aucune dette auprès de quiconque. Ils n'ont plus de père. N'est-ce pas? Autrefois, on pouvait avoir eu un maître, je parle dans les milieux des artistes, un maître qui vous avait guidé, qui vous avait appris à peindre, qui vous avait fait peindre des tableaux avec d'autres personnes, etc., comme chez Ingres, de la Croix,
qui sait. Comme chez les artisans aussi.
Voilà, exactement. Et puis, tout d'un coup, justement, c'est aussi à cette période où les fils renient leur père, vu ce qu'ils en avaient banné, il faut quand même comprendre le truc, et bien à ce moment-là, ils estiment qu'ils ont presque, ils n'ont aucune dette et aucun compte à rendre à personne, et que donc il n'y a plus de père. Voilà. Donc c'est aussi dans ce sens-là qu'il faut l'entendre. Par exemple.
Et que des fils, il n'y a que des frères, alors.
Et voilà, donc vous voyez, et donc il y a aussi un troisième écho possible, c'est sur le mythe. Inventé par Freud, qui s'appelle Totem et Tabou, où effectivement les frères se rebellent contre cette espèce de père monstrueux qui se tape toutes les femmes de la tribu et qui disent ça suffit, qui le tue et qui en tire ensuite qu'il va falloir distribuer les femmes d'une manière complètement différente. Voilà. Donc c'est ce meurtre, le fameux meurtre du père. Et il n'y a donc plus de père et il n'y a plus que des fils, donc des frères. Mais tout ça est dans cette proposition de Volman à prendre au positif comme au négatif. D'où que je ne me sente pas particulièrement traître d'avoir reconnu Gilles Volman comme un père imaginaire, comme un père idéal, comme ça arrive, comme ça peut arriver dans une vie. Voilà. Bon, on connaît énormément d'histoires où un jeune garçon perdu, sort de la forêt, et puis rencontre un forgeron qui l'accueille, n'est-ce pas, et qui le forme, et qui... Toute cette mythologie, quoi. Voilà.
Dominique Mas en est loin avec ce, pour un Volman, des embrasseurs d'arbres qu'on a déjà écouté sur Radio Grenouille, de Dominique Mas. Ou est-ce qu'on n'est pas si loin que ça?
On en est loin, parce que déjà nous allons exaspérer notre monde pendant un bon moment. C'est-à-dire que nous sommes, avec nos auditeurs, en train d'expérimenter une forme incongrue, qui est celle de la nuit exaspérante, dont nous ne savons rien. C'est une sorte d'expérience, pas au sens scientifique bien sûr, d'une expérience, d'un début d'aventure. D'ailleurs, pour être honnête, il faut dire la vérité, nous sommes en train de parer en plein jour, n'est-ce pas? Bon, ultérieurement, nous agirons de nuit, mais pour l'instant, nous préparons une émission qui sera diffusée la nuit, mais qui est préparée de jour. Bon. Cela dit, la forme en est nocturne, c'est une forme nocturne. C'est pour ça que, pour cette émission, j'avais pensé à réaliser ce tombeau, puisque, d'un point de vue littéraire, c'est un tombeau, c'est-à-dire une œuvre littéraire faite pour magnifier une personne disparue. C'est une sorte de catafalque, une sorte d'architecture, comme ça. Bon. Et c'est pour ça que j'avais pensé à ça pour une nuit, puisque c'est ce côté nocturne, quoi. On sait que que la mort, c'est plutôt sombre, quoi. Voilà. Enfin, cela dit, ça a forcément un rapport lointain à étudier avec ces fameux embrasseurs d'armes. J'en vois un immédiat qui est encore une fois imaginaire, à savoir que à l'occasion de ces embrasseurs d'armes, nous avions remarqué que si les enfants appréciaient de mesurer leur taille auprès de celle des arbres en les tenant embrassés, ça évoquait toujours un rapport à la puissance paternelle, à cette espèce d'assurance, à cette espèce de force de soutien, quoi, qu'on peut attendre d'un père.
Ben ouais, les arbres, quand on est enfant, on grimpe dessus et ils nous permettent d'être grands.
Voilà, oui, aussi. Alors peut-être que vous sous-entendez là que je suis en train de grimper sur les épaules de Volman et que j'y fais la grenouille qui se croit aussi grosse qu'un bœuf.
Nous aimons les ascenseurs très rapides.
Peut-être. Voyons la suite.
Tu es l'héritier. Les fils héritent, car les pères meurent. Les fils, eux, durent et s'épanouissent. Tu es l'héritier. Rilke, le livre d'heures, Pléiade.
Je ne suis pas allé en Belgique pour un Malherbe, mais à Marseille, pour mon Volman. Des cadres bardés de badges visitaient l'exposition Van Gogh. J'étais là, fumant, à les regarder remuer leurs badges quand j'ai entendu derrière moi « Ils sont tous fous, ces Volmaniens !» Situer Volman, c'est me situer. Camponge situe Malherbe. Fût de l'arbre français, il se situe lui-même, branchette, tout là-haut, feuille de l'année, feuille contemporaine. Ponge s'édite héritier pour un Malherbe. Je tâche de ne voir que la coupure, que la séparation. Je refuse l'héritage sonnant et trébuchant, le fixe et la prime. Interrompt.
Volmansland. No man's land.
C'est encore mieux écrit. On ne peut plus le cacher. La séparation, l'espace de la séparation est désert. Territoire de personne. Double doute, double perte. Le ton d'Ulysse, le trompeur, et celui de Jésus aussi bien. Et que fait-il, sinon mettre la main dessus, comme il l'a dit ailleurs, main basse sur la vie? Et qu'est-ce donc que ce mettre la main, sinon y placer le nom du Père? Un Père, faut-il le rappeler, jamais revenu, parti en fumée. Quelqu'un nous éclaire, quelqu'un débroussaille la voie, quelqu'un ouvre la marche, sans pour autant que nous allions l'avant. Eh bien, de ce halo qu'il nous offre, quelques-uns ne veulent pas, lui reprochant d'ignorer la noirceur qui les environne. C'est là, disent-ils, dans l'obscur, dans l'occulte, que gît la vérité de tes lumières, la raison de tes ruses. Et les voilà partis, amulettes sous le bras tintinabulant. Je préfère placer ici quelques cailloux, initier un cairn qui soit visible, mais n'oblige pas, n'oblige à rien, qui suffise sans nécessité, et, fanal en main, reprendre la marche. Ici, dira-t-on, les hommes se seront parlé. Vous noterez, m'essuie-glace, les dangers de la métaphore et de l'allégorie. Nous n'explorons pas un territoire à cartographier. Nos cartes seraient trompeuses. Nous ne sommes pas l'avant-garde d'une armée de conquérants. Que ferions-nous d'avant-postes colonisateurs? Nous ne sommes pas avides, nous arpentons le vide où vivre. Notre mot de passe, Merlicht, signifie « de l'air, fille de l'air ». nègre, marron, veau, maverick. Nous sommes les sans-pareils, les appareillés, les instables, les bougés, les flous. Début juin 1995, j'ai reçu un appel de Gilles. J'en fus surpris car il m'appelait rarement, si rarement que j'en suis à croire aujourd'hui rougi qu'il ne m'avait jamais appelé auparavant. Il savait que la parution du premier volume de l'Ornithologie du promeneur m'avait fort éprouvé et me demanda des nouvelles. Il est mort le mois suivant sans que je l'aie revu, comme j'aurais dû comprendre qu'il le souhaitait. Ses derniers mots, puisque j'évoquais Goethe à l'instant, furent à l'image de sa constante perspicacité tournée vers l'humble et le simple. Comme disent les botanistes, les simples. Je les écrirai quand il en sera temps, quand la décence me le permettra. Dis-moi, ce Ponge n'a-t-il pas été l'un de tes idéaux ? Ne l'est-il pas toujours ?
Certainement.
Qu'applaudis-tu chez celui que, plus jeune, ton mentor insultait d'avoir publié dans Preuve ?
J'applaudissais le verre d'eau, le grand rinçage, le grand ménage, la lessiveuse à grande eau. Le char charriant, non. Le sein léger léger, non. Ponge m'a retourné au latin Lucrèce. De là, je n'étais plus qu'à un pas du grec. Et la tenue, n'est-ce pas ? La décence, la pudeur qui permet de tout dire ou presque, puisqu'on ne peut tout dire. Voyez sa chèvre. Che vere, dit-on de Quito a Caracas lorsqu'on applaudit.
Vous voyez que vous séparez vous-même.
Quoi donc, mon cher Socrate ?
As-tu lu ceci dans Volman résumé ? Je me sépare de moi. Me demande à Marseille mon ami psychanalyste ordinaire. Toucher au nom du père, vous n'y pensez pas ? Analyser le père, mais ça ne se fait pas. Plus de pères, rien que des fils, certes. Avec la ceinture débouclée à tout hasard et des Schmitt si nombreux que la phrase s'écrit « Plus de pères, rien que des flics ». Sylvain Montségu, convoqué lui aussi à Marseille, signale à ceux que Volman intrigue le mouvement qui déployait les formes dans ces années profondes. S'il y avait pour certains quelque chose qui ne pouvait durer, si quelque chose déplaisait, c'était bien ces valeurs humanistes dont ils avaient vécu qu'elles ne tenaient rien, qu'elles n'étaient pas plus colonnes que fûts, chapiteaux que fondations, qu'elles avaient été réduites à rien, à un rien bien plus conséquent que le « vanité des vanités bibliques ». Claude Ollier, bien plus résolu que ses petits camarades du renouveau romanesque, fut exclu, tout de même que Volman, de ne pas avoir récusé vainement ses valeurs. L'exclusion, ça vous marque un homme, ou plutôt, ça vous le démarque. Encore faut-il qu'il en soit un. Et je ne sais pas trop ce que c'est qu'un homme, Lacan. Oui, l'époque se déclarait cendreuse. Les fils de l'homme l'avait permis. La tentation était grande d'un grand bond en arrière qui renouerait les liens de ces générations perdues. Ah, Malherbe, Malherbe enfin vint. Ponge, pas si nigaud d'avoir été déniaisé à la CGT. Vois bien ce que l'Académie à lui tout seul, Malherbe, doit à Henri IV, à ce qui le fait Henri IV et à ce que Henri quatre faits. Non pas la France, comme il l'écrit, mais le royaume de France. Ma foi, qu'à cela ne tienne, ignorons ces calombronnènes marxistes et retenons-nous aux majuscules. En effet, c'est magique, c'est idiot.
Séparé, séparé. 2. Séparé, séparé, au feu entré et couvé. 3. Séparé, séparé, au feu entré et couvé qui ouvre l'espace. 4. Séparé, séparé au feu. 5. Séparé, séparé au feu. Entrée et couvée qui ouvre. 6. Séparé, séparé au feu. Entrée et couvée qui ouvre l'espace séparé, séparé. 7. Séparer l'espace séparé. Texte retrouvé le 28 septembre 1978. Fin de Marseillaise. Séparé, séparé, au feu entré et couvé. 3. Séparé, séparé, au feu entré et couvé qui ouvre l'espace. 4. Séparé, séparé, au feu. 5. Séparé, c'est pareil au feu, entrée et couvée qui ouvre. 6. Séparé, c'est pareil au feu, entrée et couvée qui ouvre l'espace séparé, c'est pareil. 7. Séparé, l'espace séparé. Aparté, abandon, acte aggravé, action ajournée, alternance agrandie, anéantissement des anecdotes, accoutrement des apparences à l'approche de l'agresseur, adversaire analphabète, la fabulation à fleurs, les alliances accordeur accordé. Amarrage de l'absurde, absolue accalmie, acharnement ahurissant, ailleurs aboli, abîme aboutissant de l'absence, amalgame des alentours, aliénation, accent accablant, accès aisé, actuel abrégé, abus ample, abondance, abrupt aménagement des analogies adverses. L'affirmation de l'âge abroge les allégories. Affluent acéré, affameur absurde, accapareur achevé, aboiement des admirateurs, accolage de l'admirable, abattage anonyme. Après l'allusion, l'amnistie, acteur, j'acclame un agitateur acrobate.
Le 12 avril 1988, la galerie Spies nous invitait au vernissage de « Je suis la proie, des mots les mots m'écrivent » Volman. Comme les visiteurs, assez nombreux, avaient trouvé ou retrouvé leurs habitudes et brouhahaient tant et plus, j'avançais d'un pas en gueulant. Volman nous fait de l'ombre, et voici pourquoi. Patrick Bugeaud s'avança lui aussi et dit
« Volman fait une chose, un tableau de Volman en fait une autre. Fait l'impossible de n'être pas un. » De Volman, c'est le bord, en effet, la prise donc qui fait défaut, se dérobe et manque à être une. L'œuvre de Volman est travaillée par le milieu. La rupture faite au milieu ouvre, taille à vif, la galerie D. Être Volman et s'y démettre, prendre la rupture comme paradis, au vol, se déprendre de la lettre. Volman est difficile à dire. Là où les transports en commun déraillent, on peut dire qu'il vient de finir. Volman est difficile à dire. Là où les transports en commun déraillent, on peut dire qu'il vient de venir. À ne pas éviter, Volman échappe à l'angle formé par le nom et la chose. Ne pas éviter ne revient pas au même. Volman introduit la distance entre lui et nous, c'est la diaspora. Reste à réinventer la machine à séparer.
Applaudissements nourris, Volman, que nous n'avions pas prévenu de notre projet d'intervention, en fut ému. Nous étions bien vengés. Plus tard, en 1995, quand parut « Les Inhumations », les éditions Alia me demandèrent quelque chose, de quoi faire un cahier de 16 pages. Je proposais à Patrick Bugeaud de correspondre un moment autour du « Pas un livre ». Puis je transformais notre échange en un dialogue que j'intitulais « Volman ou les Inhumations », genre moral, reprenant le tempo des intitulés des dialogues de Platon.
« Commence donc, mon cher ami, par me montrer ce que tu tiens de la main gauche, sous ton manteau. »
De la conjugaison du verbe « écrire ». Je t'écris. Tu me lis. Il est écrit. Lisons-nous les uns les autres. Vous écrivez, ils ne lisent plus. Pourquoi donner une telle importance à la critique ? Volman, résumé des chapitres précédents, publiés par les éditions Spies en octobre 1981, n'est pas un livre de Volman, bien que Volman l'ait réalisé d'un bout à l'autre. Qu'est-ce ? La collation, année après année, de 1950 à 1981, des faits et gestes Volman, salués ou non par la critique. Preuve par l'index, dictionnaire critique, publication citée, Texte de Volman. J'ai noté l'écart, l'abîme entre les annonces et les comptes rendus. La presse, me dira-t-on, me dis-je, ne peut rien faire que ce qu'elle fait, dire que ce qu'elle dit. La presse ne se presse pas aux expositions Volman et quand elle s'y retrouve, qu'écrire qui passe les fourches codines de son format ? Pas grand-chose. La presse n'est pas concernée, elle consterne.
L'attaque a donc une grande importance. Le saisissement doit être immédiat et l'enlèvement réel. Il ne faut pas que les lecteurs butent, bronchent, s'effraient, hésitent, aient l'impression non peut-être de ne pas comprendre, mais de n'être pas compris, concernés. Ponge, finale de Pour un malheur.
Bon an, mal an, 10 lignes par-ci, 24 par-là, la presse accompagne Volman jusqu'à la séparation. Là, le gouffre. Puis ça reprend avec les décompositions, au retour du plaisir esthétique, voire du décoratif. La presse a bien parlé de la séparation. Elle s'est tue. L'échappée des lucarnes. Renard ou lièvre, fausse piste, fausse voix, faux fumet. Volman s'est égaré. Qui aura lu les larmes de Saint-Pierre de Malherbe avec l'attention de Ponge, lira les inhumations l'œil exercé. S'il évoque la tradition juive, ses livres donc, Volman ne souscrit pas nécessairement à leurs croyances. S'il m'arrive d'évoquer nymphes et naïades, je ne m'en tiens pas nécessairement aux mythologies grecques. Du reste, je me retiens. L'égarement provoque l'arrangement critique. Réponse. Je réponds aux questions de M. Yves Tenret, qu'il pose dans un article fort documenté de « Défense de mourir », consacré donc à Volman. Page 374, colonne 1, fausse piste. Page 374, colonne 2, non. Page 376, colonne 1, réécrire, non, non, aucune, 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 rien, aucune, non, 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 non. Page 376, colonne 2, faux. Volman n'a pas plus à faire avec l'avant qu'avec l'arrière. Aucune marge, plus intelligent qu'avant-garde, fausse piste. Page 377, colonne 1. Volman est ouvert, retranché comme Mallarmé, qu'autrui s'y mette. Page 378, colonne 2, fumisterie. Qui sait ? Page 379, colonne 1, ni l'un ni l'autre. Page 379, colonne 2, si. 22 novembre 1993, peinture dépeinte de Volman, entièrement lue à la main. Place. Captive du désert. À l'approche, la peur. La peur parcourt. Une lumière, la victoire. La victoire occupe. La victoire occupe l'emportement des mains, entrave la parole. Des mains entravent la parole. L'extrémité déchire la tentation. Quête délivrée du carnage aux confins du deuil. Quête aux confins du deuil délivrée du carnage. Le cri de l'homme devient sujet du souvenir. La lutte pour la beauté extermine l'image. Une pratique de l'abandon détourne l'ordre des mots. Accessoire de la crainte. Une part exécute l'armée au nombre insolent. Insolence des mots anéantis. L'écriture rassemble des dépouilles en colère. En colère, la parole propose le pouvoir de l'objet. Sauve le présent retranché. L'objet sauve le présent retranché. La colère, ajouté à la déchirure, rencontre l'écrasement des mots, éloigne l'autre de la terre brûlée. Le jour détache la proie du mur, rassemble l'étranger. Quand la main délibère, la parole illustre l'insolence. L'insolence de dire frappe, tombe, se brise loin. Loin, de face, l'extermination poursuit la nuance, repousse le renom, redoute l'abondance, l'ennemi improvise. Otage. Otage, le pillard décourage la soumission. toute de feu, la lettre obstrue l'incendie, dépouille une flamme, ruse. La rencontre, avide le matin, disperse le passé se cache dans la ville défaite, multitude vivante séparée. L'embarras de la parole restaure les restes de la garde, la lâcheté extermine le terme, ouvre un lieu moitié, combat, célèbre le cri. Le cri supprime la forteresse, la lâcheté supprime la forteresse, la même terre sauve l'homme, l'homme qui a écrit. Qui a écrit « La nuit n'est pas un endroit pour mourir ». La richesse, à l'abri, rassemble l'embuscade et la déroute. Le visage délibère, homme de traverse, lance-flamme, à peine messager. La fureur cerne le trouble. Déjà, la main annonce le sujet de la peinture. L'écriture exécute un tour de passe-passe, le mot escamotelage de la couleur, copie d'une écriture rusée, asservie à la forme. Le mot, blessé au front, dévaste un lieu constant, guerre pour la paix. La domination situe l'épouvante, éloigne l'extrémité autour de la perpétuité. Autour de la perpétuité, l'ennemi. L'ennemi, la lettre. La lettre ouvre une plaie. Chaque mot la referme. Je prends la parole. Je prends la parole à la promesse. À la promesse de l'eau. La forteresse illustre un personnage. Un personnage désert. Désert. Assaut du semblable. Le cœur en embuscade exécute la noce. Alliance des deux rives. Menace du mur maintenant. Maintenant littoral. La crainte d'un milieu détruit le reste. Une mort confiante raconte un bruit, ensevelit la conclusion. Perte hostile au deuil. Perte hostile au deuil. La peur sollicite un rempart. Incursion du groupe dans une année dispersée. Homme proche du passage. Contre-vivant fidèle à l'illisible. Mon histoire dispose de ses adversaires. La fête échange le combat. L'arme indécise frappe le pouvoir sans entrer en fraude. Cherche l'appui du jour dépouillé. Une première lettre cache le butin au profit du mot. Le sable cercle l'endurance du rivage. Le sable rencontre la parole, devance la haine, rencontre l'objet. Position favorable. Position favorable à l'incendie de l'ordre. À l'incendie de l'ordre, à l'incendie de l'ordre, la parole s'empare. Position favorable. Position favorable à l'incendie de l'ordre. À l'incendie de l'ordre, à l'incendie de l'ordre, la parole s'empare de lettres à l'abandon. Ce jour-là, rien ne limite la rançon. Écrire la peine raconte. Un signal ? Le message oppose la frontière au sentiment d'un autre lieu. Le tranche-mur trouble l'homme. Une lettre exempte l'effet de frayeur. Ruse à la tête d'éclat. La bataille du cœur sépare le souvenir de la souffrance. Autour de l'étrange, un seul verrou. Autour de l'étrange, un seul verrou tombe. Tombe l'autre, allié. La connaissance rassemble des prisonniers. À la poursuite de l'écriture, une main ininterrompue fait un présent captif. La question ordonne la famine, cherche l'ennemi. Territoire du nombre. La place de l'argent détruit la clameur, menace le jour, fatigue la part d'épouvante. Une colonne d'ossements habite l'homme. L'acte nouveau est arrivé. Le mot se détourne, réfugié des déchirures. Une haute voix porte la parole de vivre. Vivre imprime le manquement de vivre. La parole de vivre imprime le manquement de vivre. Le poing juge la main. Le poing juge la main. Le poing garde l'oubli, chante l'excédent. La main garde l'oubli, chante l'excédent. Lire en ton être l'écriture, jour de crainte. Pourquoi vivant? Pourquoi mort? Adversaire des fortifs, l'ennemi accepte la poursuite, trouve la pureté, s'empare du livre. La déroute du langage suit, la déroute du langage suit l'injure des yeux, suit l'injure des yeux. Attention au rempart! Attention au rempart de joie! La lecture d'un bonheur immédiat prend la guerre pour messager, prend le parti de lire. de lire la peinture. La peinture, perpétuité des prophéties. Perpétuité des prophéties d'un agitateur. Perpétuité maintenue à l'extrémité du discours. Ma fidélité aux mots interroge les confins. Le geste rassemble l'autorité. L'autre doit. L'autre droit. Expulse. La vieille possession cachée, porteuse de terre, manifeste l'écriture, tourne un appui, retourne, meilleur, talent, colère, talent, mercenaire, talent, massacre, massacre une forme libre, ravage la charge de chaque mot, parle de la vue en continu. J'ai tout fait pour ne pas dire. J'ai tout fait pour ne pas dire. Vous ne compterez pas pour rien la bande son du film L'Anticoncept où Volman use du langage pris à méthode qui donnera sur papier j'écris propre et sera théorisé sous le nom de détournement, plus tard dégradé en cut-up. Les curiosités ahurissantes qui ahurissent les ahuris s'en trouveront moins abracadabrantes aux troublés, atterrantes aux stupides, confondantes aux stupéfaits, déconcertantes aux sidérés, déroutantes aux pantois, ébahissantes aux médusés, ébouriffantes aux interdits, effarantes aux intellectuels, énormes aux insomniaques, épatantes aux inquiets, étonnantes aux inactifs, étourdissantes aux illuminés, excessive aux ignares, extraordinaire aux idiots, horrible aux hébétés, importune aux étonnés, impressionnante aux estomaqués, insensée aux effarés, renversante aux ébouriffés, scandaleuse aux ébahis, sensationnelle aux bouches bées, sidérantes aux bêtes, soufflantes aux babas, stupéfiantes aux absorbés, suffocantes aux abrutis, surprenantes aux abasourdis. Par exemple, de ce captive au désert, vous avez entendu? Préférerez-vous ceci? The best-selling author sweeps an intriguing new heroine into a captivating adventure of suspense, romance and danger. With her anthropologist husband murdered and their caravan stolen, Carissa's choices are few. Death by starvation, thirst or murder, or a life of slavery. Disguised as an Arab boy, she embarks on a dangerous quest for freedom. Où cela? A French woman is taken hostage by an African tribe for months. Can she escape? Réserve. À mesure que la philistinerie s'est introduite dans la presse, c'est-à-dire immédiatement, interrompu. Je ne reviendrai pas sur les philistins. Un des arguments du bourgeois à la Flaubert, le Bouvard ou Pécuchet moyen, s'étonne qu'il y ait un tableau derrière le tableau, une bibliothèque de part et d'autre d'un livre, des cloportes sous une pierre. Pécuchet voudrait que l'œuvre d'art lui saute à la gueule aussi évidemment que la marchandise à laquelle Bouvard a habitué son monde. Ça n'a tout aussi évidemment pas tardé. Les artistes ne sont pas moins Bouvard et Pécuchet que le bourgeois qui les commande au magasin prix de la culture. Il faut bien décorer son intérieur. Le suppositoire n'est pas troublant, il est rare qu'on se le foute dans l'oreille. Les artistes, qui voulaient garder leur compte à soi, désolés que le consommateur n'évalue pas leur rareté, se sont donc parqués. C'est la réserve naturelle de Gisèle. Entendez bien ce mot comme on l'entend au National Geographic. Je ne vous parle pas de la pudeur de la donzelle. La presse, qui renifle la niche marketing en remuant la queue, y a trouvé de quoi faire. Elle y distribue la marchandise en rédigeant les étiquettes. « Public concerné », écrit-elle, et suit la liste comme à l'office catholique. « Interdit au » et suit la liste de la censure. Un sociologue s'est penché sur la question et l'a nommée « distinction ». L'amusant est qu'il est aujourd'hui rougi aussi distingué de signaler qu'il faut avoir lu le Zohar pour lire Volman que de dire qu'on ne mange pas de ce pain d'un télo. La distinction s'est enfin démocratisée, tout le monde est distingué, tout le monde se distingue, à chacun selon son tas. Il n'est même pas exclu que ce chacun cultivant avec ardeur la distinction du tas où il tâche de faire tâche, à moins de n'être pas repéré, en vienne à n'être plus que la distinction dont il se fait preuve. C'est le jeu des épigones bien connu. Bref, de ce côté, les gazelles, et par là, les flamants roses. Entrée, 35 euros la journée, distribution des repas, fauve, 15 heures, pingouin, 17 heures. Pas de cacahuètes aux singes. Encore tout ça. Cette nuit n'en finit pas. Cette nuit n'en finit pas, mes chers amis. Cette nuit n'en finit pas. Cette nuit exaspérante. Cette nuit exorbitante. Et la vie continue, n'est-ce pas ? Malgré cette nuit exténuante, la vie continue, malgré Volman. Le révolté n'écrit pas. Écrit Bachelard. Passons. Passons. Révolte. Refus, adolescent, juvénile. Mais oui, monsieur Bachelard, philistrie entretenue. Tenez, voici une gifle. Monsieur Bachelard, votre vie est invivable et la nôtre usuelle. Signé nous autres. Je vous passe définitivement comme la grue qui ne s'attarde pas. Les plumes de la queue de Volman sont loin devant.
Qu'on en finisse.
Filons. Monsieur Ponge, je crois que je vais de même vous quitter bientôt. Qu'on en finisse. J'y suis bien contraint, puisque le beau Philèbe est absent.
J'y suis bien contraint, puisque le beau Philèbe est absent.